Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec le journal et juste après on ouvre comme chaque soir le club des idées. Ce soir, coup de projecteur sur l'immobilier. Le marché n'a pas faibli malgré la crise. Alors est-ce toujours le bon moment pour acheter dans les villes, dans les campagnes? Si vous faites partie de ces Français qui veulent changer d'air, eh bien ce soir on vous dit tout pour bien choisir en partenariat avec l'hebdomadaire L'Obs. Grand débat à 19h20. Et juste avant, ce sera la carte blanche du club des idées avec ce soir l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt. Verlaine et Rimbaud, c'est un grand oui pour le Panthéon, nous dira-t-il. D'abord, le point sur l'info, comme chaque soir avec vous Isabelle Millet.
J'ai vu deux personnes victimes, une femme et un homme, dans les anciens locaux de Charlie Hebdo. Un homme attaqué à la tête, vraiment un visage en sang, enfin toute la tête.
Stupeur à la mi-journée, une attaque à l'arme blanche devant les anciens bureaux de Charlie Hebdo.
Deux personnes grièvement blessées, deux suspects interpellés, mais encore beaucoup de questions.
On sera sur place dans le 11e arrondissement de Paris où les habitants ont l'impression de revivre un cauchemar et on demandera à Didier François qui pourrait être derrière cette attaque.
Au sommaire également ce soir, le ministre de la Santé en déplacement à Marseille. Les restaurateurs l'attendaient au tournant, ils n'ont pas franchement été convaincus.
À Lille, Martine Aubry non plus n'est pas convaincue du bien fondé des mesures imposées dans les 11 métropoles en alerte renforcée, elle parle même d'ineptie.
La tendance météo avec Anissa, et là aussi ça s'annonce plutôt mal avec des vigilances ce soir dans le sud notamment.
Oui, nous avons 6 départements placés en vigilance orange. Attention donc aux fortes pluies, aux vents forts. Demain, le programme c'est pluie, orage, vent et neige. Il y aura quand même des chances sous le soleil, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Rue Nicolas Appert à Paris, un nom qui restera à jamais lié au massacre, à la tuerie de Charlie Hebdo.
Oui, un nom qui a ressurgi brutalement ce vendredi à la mi-journée.
Deux blessés à l'arme blanche, une femme et un homme qui étaient simplement descendus pour fumer une cigarette dans cette rue Nicolas Appert, donc, qui abritait autrefois les locaux de Charlie.
Grièvement touchés, leurs jours ce soir ne sont pas en danger. Il s'agit de deux membres de l'agence de presse Première Ligne, dont les bureaux se trouvent précisément dans le même bâtiment et qui avait déjà assisté impuissant à la tuerie de Charlie Hebdo.
Alors rapidement, deux hommes ont été interpellés, l'un d'eux était couvert de sang. On va bien sûr revenir sur le profil des tueurs, mais d'abord Yasmina Katou, vous avez passé l'après-midi dans ce quartier du 11e arrondissement de Paris où les plaies ont été subitement ravivées.
Oui, les habitants du quartier sont ici comme sonnés par cette nouvelle attaque. Un coup de massue pour Damien qui vit dans le 11e arrondissement. Il a vécu tous les attentats de 2015. Le Parisien vit à une cinquantaine de mètres des anciens locaux de Charlie Hebdo.
C'est trop là. Ce sont de très très mauvais souvenirs et le quartier commence à avoir un passé un peu trop lourd.
Le passé, Sébastien, se l'est pris comme une claque en plein visage ce matin. Le stress, l'angoisse, tout est ravivé.
Moi, c'était ce matin que je me suis dit que je commençais justement à plus jamais penser à regarder derrière moi ou à avoir un truc, une espèce de crainte constante. Je pense que j'ai fait un espèce de deuil de la tranquillité en fait quoi.
Justement, pour vivre dans la tranquillité, c'est le souhait d'Amandine, habitante du 11e depuis 10 ans. Pour ça, à contre-cœur, elle a décidé de quitter Paris. L'attaque de ce matin, c'était la goutte de trop.
On n'a pas envie d'élever nos enfants dans ces conditions-là. Vivement que vraiment on s'en aille.
Danielle, habitante du quartier depuis toujours, tente, elle, de se rassurer.
Ce qui compte, c'est que la personne soit arrêtée aujourd'hui. Ça va aider pour le quartier, je pense, à passer à autre chose. Mais bon, ça nous remonte quand même 5 ans en arrière. Donc on est touchés.
Les larmes aux yeux, Amandine conclut, il ne faut pas s'arrêter de vivre, même si une énième attaque peut arriver à tout moment.
Merci Yasmina Katou, dans le 11e arrondissement qui a été, dès l'annonce de cette attaque, immédiatement bouclé. Tous les établissements scolaires du quartier, même les crèches et les lieux accueillant des personnes âgées ont été fermés en urgence. On imagine la panique, hein, effectivement, dans ce quartier.
Un témoignage ce soir, celui de Mohamed qui a assisté à cette attaque. Il a même porté les premiers secours.
J'ai vu deux personnes victimes, une femme et un homme, dans les anciens locaux de Charlie Hebdo. Un homme attaqué à la tête, vraiment un visage en sang, enfin toute la tête. Et une autre dame aussi qu'ils ont rentré dans les locaux de Charlie Hebdo sur une civière. J'ai l'impression que ce soit les deux victimes, ils ont dû viser vraiment la tête. Et là, j'ai vu des gens courir dans tous les sens et j'ai vu certaines personnes rentrer dans le métro en courant et d'autres le poursuivre, courir derrière. Donc je me suis dit peut-être que c'est lui. Et là, j'ai vu la machette et là, j'ai tout de suite compris dès que j'ai vu la machette plein de sang. C'était pas une machette, c'était une hache, vous savez, les petites haches qu'on utilise en cuisine au pied du métro, il l'avait lâché là, il l'a abandonné là. et après elle est rentrée dans le métro.
Mohamed qui a donc assisté à cette attaque à la mi-journée.
Assez rapidement, on le disait, deux personnes ont été interpellées, deux suspects dont l'un est âgé de 18 ans, né au Pakistan. Une perquisition a été lancée à son domicile en région parisienne.
Et le parquet national antiterroriste s'est immédiatement saisi de l'enquête. Alors on sait qu'Al-Qaïda avait menacé une nouvelle fois Charlie Hebdo après la réédition des caricatures de Mahomet à l'occasion de l'ouverture du procès des attentats de 2015. Mais l'organisation terroriste est-elle derrière cette nouvelle attaque? On en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François.
Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Pas de revendication pour l'instant, mais une certitude, la menace terroriste est toujours présente et Al-Qaïda n'a pas disparu.
Oui, effectivement, c'est une organisation très affaiblie, hein, puisqu'elle est traquée quand même depuis maintenant 19 ans par l'ensemble des services de contre-terrorisme de la planète. Elle a essuyé des coups extrêmes comme l'élimination d'Oussama Ben Laden. Elle est également concurrencée par l'État islamique dans la surenchère, ce qui se traduit parfois d'ailleurs par des affrontements violents, par exemple en ce moment même dans le centre du Mali ou dans le nord-est de la Syrie. Pour autant, Al-Qaïda n'a pas disparu, elle continue à survivre dans des régions où les conflits s'éternisent, le Sahel, la Libye, la Somalie et bien sûr le Yémen, qui est historiquement la base arrière où a été organisée l'attaque contre Charlie Hebdo. Et puis c'est là-bas qu'a été lancé son dernier appel au meurtre à la mi-septembre, lors de l'ouverture du procès, justement, un communiqué de 5 pages visant à nouveau l'hebdomadaire satirique et qui enjoignait à ces djihadistes de retour en France de poignarder des journalistes, donc une menace extrêmement spécifique.
Et qui correspond au scénario de l'attaque d'aujourd'hui?
En tout cas, tout porte à le penser. On n'est plus face à une organisation qui a des capacités de projeter des commandos depuis l'étranger pour réaliser des opérations lourdes et complexes de type 11 septembre 2001 ou attentat de 2015. Parce que d'ailleurs, la pression militaire qu'on impose à Daesh comme à Al-Qaïda les en empêche. Ce qu'on voit clairement se développer, en revanche, c'est une stratégie opportuniste qui consiste à promouvoir le passage à l'acte avec des moyens rudimentaires parmi les islamistes radicalisés qui vivent en France. Or, au dernier pointage, ils étaient quand même plus de 8000, ce qui n'est franchement pas rien, dont 510 ont déjà été condamnés pour terrorisme, sachant que la moitié de ces détenus, 254, seront libérés d'ici à 2022.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
En tout cas, cette attaque, on l'a dit, intervient en plein procès des attentats de janvier 2015. L'annonce est parvenue jusqu'à la salle d'audience, évidemment, même s'il n'en a pas été question. À la pause, témoins, familles de victimes et magistrats étaient tous sous le choc. Maître Cathy Richard est l'avocate des parties civiles de l'attentat de Charlie Hebdo.
Forcément, on est tous anéantis. Enfin, moi, je suis révoltée, je suis bouleversée, je suis en colère, bien évidemment. On se dit quand est-ce que ça va s'arrêter. Forcément, quand on est partie prenante dans ce dossier pour Charlie Hebdo, quand on est partie et qu'on entend qu'à cet endroit-là où le sang a déjà coulé, on refait couler le sang, on se dit, mais c'est, je vous dis, c'est l'incompréhension, c'est la colère et c'est se dire, mais quand est-ce qu'il n'y aura pas un illuminé, un fou de Dieu ou un fou d'autre chose qui va se prendre pour un justicier et qui va comme ça s'attaquer à des gens? Bon, forcément, nous, ça nous renvoie à ce qu'on est en train de juger, mais ça nous y renvoie hors de la salle d'audience. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. C'est ça, et c'est la seule chose qu'on peut vous en dire aujourd'hui.
Maître Cathy Richard, avocate des parties civiles au procès de l'attentat de Charlie Hebdo, elle était au micro Europe 1 de Justin Morin.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h09, c'est la suite de votre journal avec Isabelle Millet. Les Marseillais avaient promis un accueil à la hauteur de leur colère. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a rapidement compris en arrivant sur place, à Marseille donc, qu'il n'était pas franchement le bienvenu.
Oui, c'est loin que l'on puisse dire. Une manifestation ce matin avait déjà donné le ton. La fermeture des bars et des restos pour 15 jours, on n'en veut pas. Et certains sont même allés plus loin. On ne la respectera pas. Céline est restauratrice à Aubagne. Elle est venue manifester cet après-midi devant l'hôpital de la Timone où s'est rendu justement Olivier Véran.
Monsieur Véran voit bien qu'on n'est pas encore mort et qu'on ne se laissera pas crever. Il faut se battre, qu'on ne ferme. Moi, je ne fermerai pas, mais en rentrant en résistance, oui. Leur montrer qu'on est là. On est très discret, on ne fait jamais beaucoup de bruit. Je trouve qu'on est plutôt des enfants sages de cette société. Et là, il en est trop. Quand c'est trop, c'est trop.
Donc vous êtes prête à prendre une amende si vous êtes verbalisée?
On n'aura pas le choix. C'est soit je meurs, soit je meurs. Eh ben, je mourrai, mais je mourrai debout.
Et à Aubagne, combien de restaurateurs sont prêts à vous suivre?
À peu près tous ceux qui travaillent autour de moi, c'est une bonne quinzaine. Voilà, après, je pense que les autres, voyant le mouvement, feront de même. Crever pour crever, autant lutter. Moi, j'ai 5 enfants, j'ai une famille à nourrir, je ne peux pas laisser les choses comme ça, je ne peux pas.
Le fonds de solidarité qui est revu à la hausse?
Ça ne nous sauvera pas. Et nous, on veut travailler, on ne veut pas s'arrêter, on n'en veut pas des aides, on ne demande rien, on veut travailler. On n'est pas plus dangereux que le bus qui circule avec 52 personnes dedans. Il faut qu'on m'explique pourquoi on est puni.
Il y a quand même une réalité sanitaire.
Ça reste que des chiffres. Les chiffres, ça se manipule. Nous, on ne voit rien, moi, j'ai rien vu, madame. On ne nous explique rien, on nous impose.
Et voilà, Céline, restauratrice à Aubagne, au micro Europe 1 de Nathalie Chevance.
Et il n'y a pas qu'à Marseille qu'on a du mal à comprendre les restrictions imposées. Lille est l'une des 11 métropoles classées en alerte renforcée. À ce titre, les bars devront fermer dès lundi à 22h, comme à Paris notamment.
Oui, Lille, dont la maire Martine Aubry considère que c'est tout simplement une ineptie.
Le 22h pour les bars, je ne le comprends pas, mais on y arrivait. Je l'ai dit, nous avons mis la ville de Lille seule, je ne parle pas de la police nationale, 490 PV pour non-respect des règles sanitaires. Et quand je dis non-respect, ce n'est pas parce qu'il y avait deux personnes qui n'avaient pas le masque. Inutile de dire que c'était des plus importants. Nous avons demandé des décisions, y compris de fermeture administrative, sur 54 bars, et il n'y a eu que 5 fermetures. Faute d'avoir fermé à temps certains établissements qui ne jouaient pas le jeu et qui auraient fait réfléchir, je pense, les autres, aujourd'hui on prend une mesure 22h qui n'a pas de sens, parce qu'à 22h, on ne fait pas son chiffre d'affaires, on va fermer. Voilà, c'est pour ça que moi je ne serais pas dans la démagogie de dire non, tout va bien dans mes bars à Lille, c'est pas vrai. Mais je ne souhaite pas qu'ils soient tous, il y en a 800. Et sur ces 800, parce qu'il y en a, je dirais une centaine peut-être, qui posent vraiment des problèmes, eh bien on enquiquine tout le monde et on crée d'énormes problèmes.
Martine Aubry, la maire de Lille, au micro du correspondant d'Europe 1, Lionel Gougelot. Et dans ce contexte, cette mise en garde ce soir de Santé publique France, l'épidémie est toujours dans une phase ascendante.
Oui, l'agence affirme que les nouvelles admissions pour Covid ont augmenté au cours de la semaine écoulée de 40% dans les services de réanimation. De son côté, l'OMS met en garde. Il y aura 2 millions de morts si on ne fait pas tout contre la pandémie. 2 millions de morts au niveau mondial, évidemment.
Évidemment. Et puisque c'est vendredi soir et qu'on a bien besoin de se changer les idées, on va écouter maintenant un petit peu de musique du Mylène Farmer, dont les fans sont, paraît-il, en ébullition.
Et vous en faites partie.
Oui, j'aime bien. La plateforme de streaming d'Amazon propose à partir de ce soir un documentaire exceptionnel sur la chanteuse. Il paraît qu'elle s'y dévoile comme jamais, avec notamment ce tout dernier titre, L'âme dans l'eau, sorti la semaine dernière spécialement pour aller chez encore un peu plus ses fans.
J'ai l'âme dans l'eau. Béni soit mon refuge, béni soit l'heure de ma maison, d'où le souffle nos mains qui s'effleurent. J'ai l'âme dans l'eau, j'ai l'âme dans l'eau. L'air est lourd de ton absence, l'air est sourd à mes sentiments.
Voilà, L'âme dans l'eau, Mylène Farmer, premier documentaire ce soir, exclusivement donc en streaming sur Internet.
Ah, moi j'aime beaucoup Mylène Farmer.
Et moi aussi.
Et toi Isabelle?
Ouais. Oui, j'aime bien.
Bien, 19h13, c'était le journal d'Isabelle Millet. Non, on rigole parce que parfois on oublie de couper le micro et il y a des mots qui sortent à l'antenne comme ça. Mais c'est vendredi, c'est normal. Le vendredi, c'est permis. La météo avec Anissa. Le vent souffle encore demain.
Un temps parfait pour écouter Mylène Farmer. Attention, soyez prudents sur les côtes du Nord-Ouest demain, jusqu'à 80 km/h. Ça va souffler fort en Normandie, en Bretagne, sur les Pyrénées et au bord de la Méditerranée. Aussi du vent à plus de 110 km/h sur le pourtour méditerranéen. Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Avec ce vent sur le pourtour méditerranéen et sur le quart Nord-Ouest, eh bien, le vent chasse les nuages et le soleil sera bien présent. Ailleurs, c'est un ciel de traîne qui se met en place, un ciel nuageux avec de la Gironde aux Pyrénées, des pluies très soutenues. Les températures, elles baissent demain matin avec 4 à 15 degrés, 4 pour Aurillac, 15 à Nice. Et puis dans l'après-midi, on reste sur des valeurs proches de celles d'aujourd'hui, 10 degrés à Aurillac, 11 à Strasbourg, 13 à Clermont-Ferrand, 15 à Paris, Lyon et Bordeaux, 18 à Biarritz, 20 à Marseille et 23 à Nice. Juste le temps pour moi, avant de vous quitter, de vous rappeler que nous avons 6 départements placés en vigilance orange, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées pour pluie, inondation, ça va encore... Il va y avoir des pluies très fortes cette nuit. Et puis l'Aude, les Pyrénées-Orientales et les deux départements Corse pour vent fort, prudence dans toutes ces régions.
Bien, prudence, c'est le mot d'ordre du week-end. Merci Anissa. 19h14, on ouvre maintenant comme chaque soir le Club des idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes un
c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes, c'est un coup de griffe ou un coup de cœur, sans détour, vous en avez l'habitude. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt. Bonsoir Éric.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, vous avez décidé, c'est un coup de cœur, on peut dire ça comme ça Éric.
On va voir,
vous suspense. Vous avez décidé de revenir sur cette volonté, cette pétition qui circule pour faire entrer deux monuments de la littérature française, Verlaine et Rimbaud, au Panthéon.
Ensemble.
Ensemble.
Effectivement, Verlaine et Rimbaud, deux de nos plus grands poètes,
ont vécu une liaison forte, intense, riche, exacerbée, sans doute aussi heureuse que malheureuse. Verlaine avait 30 ans, Rimbaud avait 20 ans. Leur histoire s'acheva par une tentative d'assassinat de Verlaine contre Rimbaud, ce qui conduisit Verlaine plusieurs mois en prison. Ensuite, ils ne se sont plus revus. On peut donc s'étonner de vouloir les amener ensemble au Panthéon. Leurs œuvres sont séparées, distinctes, et si Verlaine et Rimbaud ont fait lit commun, ils n'avaient pas prévu de faire tombe commune.
Ils n'auraient pas été d'accord, selon
vous ? Évidemment non. Mais le Panthéon ne demande jamais leur avis aux morts.
Ah, une autre pétition a aussi réagi à cette proposition de panthéonisation en la dénonçant comme inepte. On voit qu'il y a un débat.
Oui. Cette seconde pétition possède également quelques arguments. Elle rappelle la brièveté de la liaison Verlaine-Rimbaud, la position de rebelle absolue affirmée par Rimbaud, et s'indigne que la militance homosexuelle récupère cette liaison.
Et vous, qu'en pensez-vous, Éric-Emmanuel Schmitt ?
Moi d'abord, je me réjouis d'être dans un pays qui, en traversant une crise sanitaire, économique et sociale, se passionne et s'étripe pour ses poètes, la place de la littérature dans la société et ce qui se passe dans nos alcôves. J'adore la France pour cela, cette capacité de se quereller pour sa culture. Cependant, je note un problème.
Je savais bien qu'il y avait un cependant qui allait arriver.
Rimbaud est célèbre et célébré dans le monde entier. Son image d'adolescent rebelle orne les chambres d'étudiants du Japon au campus californien. Quant à Verlaine, tout Français connaît par cœur quelques-uns de ses vers. Bref, ni Rimbaud ni Verlaine n'ont besoin du Panthéon.
C'est intéressant ce que vous dites. Ils sont plus forts, Éric-Emmanuel Schmitt, que le Panthéon ?
Naturellement. Parce qu'ils appartiennent à l'intime, pas à l'officiel. Leurs cris et leurs murmures s'inscrivent au plus profond de nous. Dans nos cœurs, dans nos âmes, ils vivent et nous font vivre. Ils n'ont aucun besoin du Panthéon. En revanche, c'est peut-être le Panthéon qui a besoin de Verlaine et Rimbaud. Ce que souligne cette affaire, c'est que la culture, le patrimoine, est aussi fait de contre-culture.
Oui.
Que l'insolence, que l'encrapulement prôné par Rimbaud irrigue la pensée de tous. Au fond, l'institution se nourrit d'anti-institutionnels pour demeurer.
Oui, et d'ailleurs, c'est vrai que l'activité du Panthéon est plutôt un lieu symbolique du mémoriel, plus que de l'histoire.
Exactement. Si elle récompense une œuvre du passé, elle ne parle que du présent. Le mémoriel instrumentalise toujours l'histoire. Quand la Troisième République ouvre à Victor Hugo les portes du Panthéon, elle célèbre un écrivain, certes, mais d'abord l'ennemi du régime précédent, le Second Empire. Quand on accueille Aimé Césaire, on célèbre un immense poète, mais qu'il soit noir, importe. Quand on admet Simone Veil, on célèbre une action politique d'envergure, mais aussi une femme et une juive. Certes, on ne peut réduire Hugo à l'opposant, Césaire à sa couleur de peau, Veil à son sexe. Ils dépassent tout cela car ils sont grands. De même, on ne réduira pas Rimbaud et Verlaine à leur dimension homosexuelle. Cependant, puisqu'au fond le mémoriel parle du présent plus que du passé, puisque le mémoriel repère dans un hier les précurseurs d'aujourd'hui, puisque au fond le mémoriel célèbre davantage l'actuel que le révolu, pourquoi ne pas célébrer notre tolérance nouvelle, fragile et durement acquise aux sexualités différentes ? En ce jour où des intégristes ont encore frappé des Parisiens à l'arme blanche devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, j'apprécie que notre époque se félicite de son ouverture, s'enchante de sa bienveillance, cultive avec orgueil et narcissisme la liberté. Pour ces raisons donc, plus que pour Verlaine et Rimbaud qui s'en moquent, je suis favorable à leur entrée triomphale et ensemble au Panthéon.
Merci beaucoup pour ces jolis mots, Éric-Emmanuel Schmitt. Et en attendant, le 11 novembre, vous savez que une panthéonisation va avoir lieu, celle de Maurice Genevoix et celle des oubliés de la guerre 14-18. Voilà, ce sera le 11 novembre prochain. En attendant, peut-être un jour, Verlaine et Rimbaud. Merci, Éric.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h22, on ouvre à présent le débat du Club des Idées, comme chaque soir, consacré à l'immobilier, en partenariat avec l'hebdomadaire L'Obs. Devenir propriétaire, le rêve d'une vie pour beaucoup de Français, mais la crise sanitaire est passée par là. L'année avait pourtant bien commencé, le marché était dynamique, dopé par des taux d'intérêt historiquement bas, et des acheteurs nombreux, et qu'on dit motivés. Et puis le confinement est arrivé, alors acheter ou louer? Quelle région choisir? Si vous avez envie de grand air et de campagne, on en parle ce soir avec Sophie Fay, journaliste au service éco de l'Obs, qui a participé à ce grand dossier très documenté. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
On en parle également avec Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleur Agent. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Et on en parle avec Yankel Fijalkov, sociologue et urbaniste au Centre de Recherche sur l'Habitat. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci à tous les trois d'être présents. Alors quelques mots d'abord du marché. La crise, dit-on, a rebattu les cartes. Est-ce que c'est toujours le bon moment d'acheter? Une question simple, mais que tout le monde se pose. Sophie?
Eh bien, c'est toujours le bon moment d'acheter pour une raison simple, c'est que les taux sont bas et que dans certaines grandes villes où le marché ne présentait plus beaucoup d'opportunités, oui, avec la sortie de confinement, certains biens reviennent sur le marché. Donc, il y a des possibilités. Mais
donc, l'argent n'est pas cher, il y a des bonnes affaires à faire.
Des bonnes affaires, pas forcément, parce qu'en fait, il y a quand même toujours beaucoup de personnes qui veulent acheter. Il y a surtout toujours plus de demandes que d'offres. Donc, oui, on voit que les prix ne baissent pas et que les bonnes affaires ne sont pas si simples à faire et que les banques sont prudentes, ce qui limite aussi la capacité d'achat des ménages. Mais il y a quand même des biens qui reviennent sur le marché, alors qu'en début d'année, après la très bonne année 2019, il y avait une certaine tension et un manque d'appartements à vendre, oui, ou à visiter, ou de maisons dans certains endroits.
C'est ce qui est assez étonnant tout de même, c'est que si tôt le confinement terminé, les acheteurs étonnamment sont précipités pour reprendre leur projet, en tout cas pour certains, ce qui fait qu'on a toujours une tension assez forte dans les grands centres urbains sur les prix. On a enregistré une baisse, je crois, des transactions de 18% quand même avec le confinement, parce qu'évidemment les transactions ont été gelées pendant cette période. Mais il y a aussi un autre aspect, Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleur Agent, qui est notable, c'est que les banques deviennent plus frileuses qu'elles ne l'étaient par le passé, parce que la crise sanitaire pourrait nous amener une crise financière et parce qu'il y a une défiance, ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas, il y a une prudence de la part des banques.
Ça avait déjà commencé, effectivement, dès la fin de l'année 2019, avec les fameuses recommandations du Haut Conseil de stabilité financière, qui invitait les banques à plus de prudence. Plus de prudence, c'était faire attention en fait, aux ménages qui cherchaient à emprunter sans apport, qui cherchaient à emprunter sur de plus longues durées, etc. Il y a déjà eu une première vague, on va dire, de recommandations avant cette crise sanitaire. Maintenant, avec cette crise sanitaire, les banques sont encore plus prudentes et vont être encore plus prudentes compte tenu des différences économiques et par rapport
et
à l'emploi.
Et du contexte, bien sûr. Pour tous les gens qui nous écoutent, là, un bon taux en ce moment, c'est combien?
Le taux moyen, on va dire, sur 20 ans est l'ordre de 1,3%, mais des profils, les meilleurs profils peuvent aller encore chercher des taux à 1% sur 20 ans, voire un peu
1%
moins.
1% sur 20 ans?
Bien sûr.
On trouve ça encore
pour les meilleurs profils, donc c'est-à-dire les profils les moins risqués aux yeux des banques, pour des personnes qui vont arriver avec un certain apport. On peut aller chercher des taux qui restent exceptionnellement bas et qui, comme Sophie l'a dit, maintiennent finalement des prix à des niveaux qui sont intéressants puisque le pouvoir d'achat des Français reste bon.
Alors il y a certains experts qui disent attention, on risque peut-être, si la crise financière est importante et la crise économique en France, on risque un effondrement du marché. Est-ce que vous y croyez ça, l'un et l'autre?
Alors, pas tellement, au contraire, parce que c'est même une inquiétude des banques centrales, en fait. Il y a énormément d'argent qui est injecté dans l'économie, qui explique ces taux bas. Et cet argent, il faut qu'il se réfugie quelque part. Et on voit qu'il ne crée pas d'inflation sur les biens qu'on achète au quotidien, donc sur la baguette, sur l'alimentation, sur le prix de la voiture, mais il crée de l'inflation sur les actifs financiers et sur les actifs immobiliers. Oui. Donc, il y a des bulles en bourse et il y a toujours ce repli vers l'immobilier qui sert un peu de valeur refuge. Et donc, ça crée
ça
même...
Ça marche encore, ça. Parce que ça les hausses ont été quand même assez hallucinantes. Ouais. Hein. À Paris, évidemment, je voyais encore plus 8% en juin. Alors, je crois que c'est en train de se calmer un petit peu sur juillet-août. Mais c'est le cas également sur l'ensemble du marché. 5,2% de progression sur un an avec des prix au mètre carré. On les rappelle. Bon, Paris, on est passé au-dessus des 10 500 euros le mètre carré en moyenne. Toulouse, on est à 3 347, je parle sous votre contrôle. Bordeaux, 4 500 quasiment. Aix-Marseille, entre 4 600 et 3 378, pour être précis, selon si on veut acheter une maison ou un appartement. Donc, cette hausse, elle peut continuer malgré le contexte économique instable?
Alors, la hausse, c'était, j'ai envie de parler un peu au passé.
Oui.
On était vraiment sur une hausse continue des prix de l'immobilier sur les 5 dernières années en France, avec des hausses hétérogènes en fonction des territoires, mais une hausse globale, vous l'avez dit. Là, c'est sûr qu'avec la crise et la situation que l'on connaît, on rentre dans une nouvelle ère, c'est certain. on est dans une nouvelle ère. Alors, on n'anticipe pas d'effondrement des prix parce que les taux vont rester très bas et vont soutenir le marché. Mais il est certain que la demande va s'éroder.
Mais donc, là encore, pardon d'être pratico-pratique, mais pour les gens qui nous écoutent et qui se disent, alors est-ce que j'attends? Est-ce que j'achète maintenant? Est-ce que je m'engage dans un projet? C'est quoi le bon timing?
De manière pratico-pratique, si on peut s'endetter, c'est-à-dire que si aux yeux des banques, les banques acceptent de nous prêter de l'argent, ça reste un bon moment pour rentrer sur le marché.
Parce que l'argent n'est pas cher.
Et qui soutient du coup un pouvoir d'achat qui est assez intéressant. Et mine de rien, dans la plupart des grandes villes de France, le pouvoir d'achat immobilier des Français est intéressant. Et ça vaut le coup.
Bien, on s'arrête quelques secondes, on se retrouve dans un instant et on vous entendra, notamment l'urbaniste.
Je parlerai moins de marché, mais de qualité.
Exactement, on vous entendra dans quelques secondes, 19h29, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h32, on est toujours avec le débat du Club des Idées, ce vendredi consacré à l'immobilier en partenariat avec l'hebdomadaire L'Obs. Devenir propriétaire, c'est vrai que pour beaucoup de Français, c'est le rêve d'une vie. Alors, est-ce le bon moment pour acheter? Et si oui, où et comment choisir? On en parle ce soir avec nos invités. Je vais vous donner la parole, on ne vous a pas encore entendu, Yankel Fijalkov. Vous êtes sociologue et urbaniste au Centre de Recherche sur l'Habitat. D'abord, êtes-vous propriétaire, vous?
Je suis à la fois propriétaire et à la fois locataire.
Bon.
Dans deux localisations différentes, donc vous voyez. Moi, je voulais revenir un petit peu, puisqu'on parlait beaucoup de marché, je voulais revenir sur la question de la qualité. C'est-à-dire que les biens produits ne sont pas les mêmes. Et payer 10 000 euros le mètre carré, par exemple, c'est pour des petites surfaces dans des agglomérations comme Paris. Ce n'est pas la même chose que, effectivement, de payer des prix élevés pour des maisons ou des appartements avec des parties communes bien dotées.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que d'une certaine manière, le confinement a permis aux Français de reprendre conscience que la maison est le lieu d'un imaginaire puissant. Je ne sais pas quel philosophe disait ça, qui est fait de souvenirs, de rêves, de sensations, que notre habitat, c'est un peu notre âme d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a eu aussi, pendant le confinement, cette prise de conscience? Et par conséquent, le marché de l'immobilier en profite aussi d'une certaine manière?
C'était une tendance qui existait déjà depuis très longtemps. Les gens restaient de plus en plus chez eux. Longtemps, les temps partiels, le télétravail qui commençait à se développer.
Oui.
Bon, le confinement a mis un accélérateur extrêmement puissant sur ces tendances. Et les gens, effectivement, ont investi dans leur appartement, dans leur maison. Les magasins de bricolage, les grandes enseignes de bricolage en ont bien profité.
J'ai vu qu'au sortir du confinement,
le jardinage.
La hausse de l'activité des magasins de bricolage pour acheter de la peinture, pour acheter tout un tas de trucs pour refaire son intérieur avait été absolument exceptionnelle.
Oui, et puis on avait fait un petit jeu avec une BDAste et le magazine Slate, qui consistait en fait à demander aux gens de dessiner leur appartement sur le même modèle et de regarder qu'est-ce qu'ils dessinaient. Et donc ils avaient fait une énorme tour comme ça avec 500 chambres empilées les unes sur les autres. Et ce qui était incroyable, c'était l'investissement dans les murs, les décors, les animaux sauvages ou pas. Les plantes.
Donc il y a un imaginaire très fort autour de l'habitat, vous voulez
absolument.
Dire.
Absolument.
Oui, ça n'est pas seulement un lit, quatre murs. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment un lieu de vie à part entière où on travaille, où on se confine. Donc on a besoin de s'y sentir particulièrement bien. Alors, l'éternel débat quand on parle immobilier, c'est cette question. Faut-il mieux acheter que louer? Faut-il mieux acheter que louer? C'est vrai qu'avec la baisse des taux d'intérêt, avec la hausse des prix, la question est légitime. Quel est votre avis, Sophie Fay?
Alors, ça dépend des endroits et ça dépend évidemment de votre budget. On voit que dans les grandes villes où les prix ont beaucoup monté, ça exclut quand même le marché et le prix du logement exclut une partie de la population et ça ne va pas s'arranger puisque les banques demandent des garanties de plus en plus fortes. Si vous n'arrivez pas avec un apport important, si vous n'avez pas des revenus importants, ça vous exclut du marché et ça exclut du marché, y compris des professions qui ont des revenus élevés, mais pas forcément réguliers. On a vu dans le dossier que même un notaire, par exemple, pouvait se voir, qui était par ailleurs déjà endetté, pouvait se voir refuser un crédit. Et on voit que toutes les professions indépendantes, tous les gens qui sont en freelance, tous les gens qui sont architectes, qui ont du mal.
Vous avez des gros revenus, mais exceptionnels parce que c'est lié à des activités qui évolue. Même quand vous avez des gros revenus, les banquiers préfèrent un petit CDI que des gros revenus, mais qui sont plus volatiles.
Voilà, ou alors il faut avoir constitué une épargne importante. Donc ça et puis ce qu'on voit, c'est que dans certaines villes, qui étaient des villes assez dynamiques, où il y avait de forts revenus, on a un taux de chômage partiel qui est très élevé. Et dans ces villes où le taux de chômage partiel est plus élevé que la moyenne, ça peut exclure certaines personnes du marché.
Donc il y a une inégalité très forte encore dans le marché de l'habitat.
Très forte en fonction des secteurs, notamment, qui ont été très touchés par l'économie. Dans les villes où le tourisme était important, on voit là le chômage directement qui augmente. Dans les villes où l'aéronautique était très importante, vous avez des baisses de revenus qui sont plus importantes que dans d'autres villes. Donc ça crée des difficultés d'accès. Donc à ces gens-là, c'est difficile de dire aujourd'hui, vous allez investir. Donc effectivement, la location est peut-être... Mais il y a d'autres endroits...
Mais alors, j'ai posé la question à Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleur Agent. Or, ce sujet des inégalités sociales, où évidemment tout le monde ne peut pas avoir les capacités financières d'acheter, mais pour ceux qui le peuvent, faut-il mieux louer ou acheter ?
C'est une vaste question, et pour y répondre, en fait, vraiment...
Vous avez 40 secondes, cher monsieur.
40 secondes, alors, 40 secondes, je vais essayer.
Prenez le temps.
C'est important de regarder deux dimensions qui sont évidemment personnelles. La première, c'est quelle surface, en fait, je vais pouvoir acheter ou louer, en fonction de mon propre budget. Et là, en fait... Contre toute attente, on a fait une étude récemment qui montre que dans les villes de plus de 30 000 habitants, il y en a 150 en France, dans ces villes-là, en fait, dans 40% d'entre elles, à même budget, un budget équivalent, on peut acheter un surface plus grand que si on le louait. Et ce qui est assez intéressant, et un cas très concret, à Metz, par exemple, à budget équivalent, en fait, on peut acheter un logement qui a une pièce en plus que avec le même budget, si on louait ce logement.
Donc, la surface, il faut mieux acheter.
Alors, dans 40% des grandes villes, vous avez une surface possible qui est plus importante à l'achat.
Il y a le temps de l'amortissement, c'est ça ?
Exactement, ça c'est la deuxième dimension qui est aussi intéressante, qui est la durée d'amortissement de l'achat. Quand vous achetez un bien immobilier, vous avez des frais de notaire, des frais d'agence, ça coûte plus cher d'être propriétaire que locataire, parce que vous avez des frais de copropriété, etc. Ces frais-là, il faut les amortir au cours du temps. Et aujourd'hui, en France, en fait, cette durée, elle est extrêmement courte, historiquement courte. Elle est de moins de 3 ans. C'est-à-dire que si vous
moins
prévoyez...
Moins de 3 ans au niveau national. Après, ça dépend des villes. Vous me disiez à Paris, c'est 7 ans, par exemple.
À Paris, c'est 7 ans. Mais c'est-à-dire que ce qui reste très intéressant, la durée moyenne de détention d'un bien en France, c'est 7-8 ans, à peu près. Ça veut dire que si vous prévoyez de rester plus de 7 ans dans votre appartement à Paris, qui correspond à vos besoins pendant 7 ans, vous avez plus intérêt à l'acheter que de le louer, vous allez perdre moins d'argent.
Donc réponse, il faut aller regarder sur Meilleur Agent ou sur Meilleur Taux ou sur je ne sais quoi, le taux d'amortissement. Et puis en fonction du taux d'amortissement, on prend sa décision. Si je veux rester 2 ans, 3 ans, 4 ans dans une ville, je regarde si ça correspond à la durée pendant laquelle je vais amortir mon bien
vraiment,
à l'achat.
C'est vraiment une des dimensions les plus importantes quand on prend cette décision. C'est combien de temps ce logement va correspondre à mes besoins, de manière encore une fois très pratique. Et on parlait de Paris, mais dans certaines villes, c'est extrêmement court. Une ville comme Lille, vous êtes à moins de 3 ans.
Moins de 3 ans.
Moins de 3 ans, ce qui est extrêmement intéressant. Et ça s'explique, encore une fois, par la faiblesse de ces taux d'emprunt.
Veut dire que moins de 3 ans, si on achète un bien, on le revend au bout de 3 ans et demi, on ne perd pas d'argent.
Par rapport à la location.
Oui.
Parce que
bien sûr.
Occuper un logement, ça coûte de l'argent. Oui. Mais par rapport à la location, on va moins perdre d'argent et c'est plus intéressant de
Je pense que j'ai ma réponse et les auditeurs et les auditrices d'Europe 1 également. On va se retrouver dans une poignée de secondes, 19h39, et on va se poser la question maintenant des biens immobiliers à la campagne. Vous savez qu'il y a une grande tendance, dit-on, à prendre le large des citadins vers la campagne. Eh bien, on en parle. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h41, on est toujours ensemble dans le débat du Club des Idées. Ce soir, on parle immobilier avec notre partenaire, l'hebdomadaire L'Obs. Devenir propriétaire, oui, mais à quel prix ? Et surtout, où devenir propriétaire ? Cette crise sanitaire a fait naître des envies nouvelles chez les Français qui pourraient bouleverser notre rapport à l'habitat et à nos territoires. Eh bien, on en parle donc ce soir avec nos invités. Alors, le télétravail a, dit-on, changé la donne pour notre rapport à l'habitat et aussi pour le lieu où on souhaite effectuer ce télétravail. Sophie Fay, vous êtes journaliste au service éco de l'Obs et vous avez participé à ce grand dossier avec lequel on est associé pour cette émission. D'abord, peut-être un mot sur les régions qui sont aujourd'hui les plus demandées.
Eh bien, les plus demandées, c'est la Bretagne. Il y a beaucoup de projets en Bretagne.
Valeur sûre, la Bretagne.
Valeur sûre, ça marche à tous les coups.
Et je parle en connaissance de cause.
le centre Val-de-Loire avec des départements, l'Orne, l'Indre, la Cher, la Mayenne, qui redeviennent intéressants parce qu'ils ne sont pas très loin de Paris, ils sont accessibles. La Normandie, la Bourgogne et l'Île-de-France, tout ce qui est... Et
puis tout en dehors de Paris, vous voulez dire?
Oui, ouais, l'Île-de-France, en dehors de Paris, on est prêt à aller un peu plus loin que le centre de Paris pour avoir plus grand, pour avoir un jardin, pour avoir un peu d'espace. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un retour. On a redécouvert la maison de famille, le plaisir. Oui. Finalement, on aimait passer ses vacances peut-être un peu plus loin, aller vers des destinations un peu plus exotiques. Et pendant le confinement, on a redécouvert la maison de famille et on s'y attache de nouveau.
Et vous dites aussi quelque chose de très intéressant dans ce dossier. Vous soulignez l'intérêt particulier des Français pour les maisons de caractère. C'est-à-dire avec le retour des moulins, des longères, les maisons de village, qui participent aussi d'une certaine manière, dites-vous, à faire revivre le patrimoine français. Mais alors, question, est-ce que cette migration vers les campagnes, est-ce qu'elle est réelle ou elle est fantasmée? Vous savez, entre l'intention et la réalisation, il y a parfois un monde d'écart. Donc, est-ce que les Français, vraiment, déménagent des villes pour aller s'installer à la campagne?
Alors, on voit des cas, hein. On voit notamment dans les agences de villes comme Compiègne, dans les villes autour de Paris, on voit des Parisiens qui arrivent avec leurs habitudes de Parisiens, c'est-à-dire qu'ils achètent au prix sans négocier. Alors, ils n'achètent pas au-dessus du prix parce qu'avec les données, les statistiques des notaires et les données que l'État a rendues publiques, on sait à peu près où est le marché, donc on ne fait pas n'importe quoi. Mais il y a maintenant des acheteurs qui arrivent et qui font des offres au prix
directement. Et ça fait grimper les prix, ça ?
Et ça fait grimper les prix dans certains coins. Mais en même temps, on voit qu'il y a beaucoup de pulsions. Et est-ce qu'elles vont se réaliser jusqu'au bout ? Ça,
alors, même question, Yankel Fijalkov. Vous êtes sociologue et urbaniste au Centre de recherche sur l'habitat. Est-ce que ce mouvement, il est réel aujourd'hui ? Et est-ce que ça participe, c'était la question que je posais à l'instant à Sophie Fay, ça participe à une augmentation des prix de l'immobilier en milieu rural ?
Alors, le prix d'immobilier, je ne saurais pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons fait une enquête pendant la période de confinement. On a eu 4500 réponses à un questionnaire qui faisait 80 questions. Et la localisation des personnes qui se sont... on arrive à ce chiffre de 17% de métropolitains qui sont partis vers les petites villes. Ce que j'entends par petites villes, c'est entre 2000 et 10 000 habitants.
Oui.
Donc des villes bien équipées en services, je pense que c'était important, mais proches de la nature. Des villes certainement familiales, certainement des résidences secondaires ou des gens qui étaient chez leurs parents ou qui avaient emprunté. Bon, on a, si vous voulez, des espèces de petites communautés éphémères.
Mais le besoin
qui se sont constituées à ce moment-là.
Il est réel et c'est ce que vous ont répondu les personnes que vous avez sondées.
Voilà. Donc se rapprocher un petit peu plus de la nature, fuir les densités urbaines qui sont importantes. Et si vous voulez, du côté des métropolitains, ce qu'on a, c'est une demande énorme de balcons, de parties communes. Les gens, pendant le confinement, ont beaucoup souffert de ça. Donc effectivement, ça s'est reporté sur les petites villes.
C'est également ce que vous observez, Thomas Lefebvre. Vous êtes directeur scientifique de Meilleur Agent.
On avait constaté ce que vous avez qualifié comme effet de fantasme, effectivement, pendant le confinement, avec des gens qui ont consulté des annonces, effectivement, un peu plus loin que Paris, des maisons et compagnie. On a eu cet effet-là, on a vu ça. Ensuite, ça va prendre un peu plus de temps pour que ça se reflète dans les prix. En tout cas, aujourd'hui, on ne le ressent pas très clairement sur les prix, hein, sur les différents indicateurs qu'on va construire, parce que ça va prendre du temps, en fait, ces choses-là. Et à mon sens, ça prendra du temps avec le télétravail.
Mais
aujourd'hui,
quand même, pardon, je pousse le raisonnement. Dans des zones rurales, on parle de la Normandie, du Val-de-Loire par exemple, il y a des endroits qui sont autour de petites communes, vraiment 1500, 2000 habitants, voilà, ce sont des zones rurales. Il suffit qu'il y ait une dizaine d'acheteurs pour que ça opère un mouvement sur les prix, ou il en faut vraiment, vraiment beaucoup plus?
Il faut qu'il y ait un certain mouvement, mais...
Un volume d'acheteurs, etc.
Ce sera des statistiques qui seront opérées au niveau des agrégats qu'on fera au niveau des villes et compagnie. Mais ce que je veux dire, c'est que cette chose-là sera vraiment palpable sur les prix, déjà dans quelques mois. Ça se ressentira. Les quelques exemples qu'on a, on a tous effectivement quelques exemples en tête. Ça ne pourra se produire que s'il y a vraiment un changement dans la manière dont le monde du travail s'organise en termes du télétravail. On parle beaucoup du télétravail, Mais aujourd'hui, les entreprises n'ont pas quand même totalement accepté. C'est des réflexions qui sont en cours.
Oui.
Voilà, aujourd'hui,
il y a
est...
des négociations en cours. Des négociations avec un nouveau round de négociations le 3 novembre. Donc c'est...
Aujourd'hui, on est vendredi à 19h50. On est tous à Paris. on n'est pas et on ne vient pas de la Bretagne, notre Normandie. On n'a pas encore changé de vie.
Oui.
Il y a encore aujourd'hui, de fait, on est très attaché finalement à nos bureaux. On fait peut-être un peu plus de télétravail un jour ou deux par semaine.
Vous parlez de Paris, mais de toutes les métropoles,
françaises.
Oui, oui.
Mais il y a quand même une acceptation du télétravail par les entreprises qui doit être faite pour qu'on ait un vrai effet sur les prix.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous citez justement dans le dossier de l'Obs le patron d'un groupe immobilier qui prévient tout de même, je le cite, « Attention, le passage du rêve à la réalité peut être douloureux. Mieux vaut avoir la quarantaine, être solide psychologiquement pour changer de vie hein, et financièrement, et s'installer plutôt dans une région que l'on connaît et où on a des amis Yankel. »
Il faut pas se lancer
tout seul et partir au fin fond de,
oui,
du Berne avec sa famille et se retrouver au bout de quelques mois
ça.
Un peu
je
en désillusion.
On a croisé par exemple le département de naissance avec le département de confinement, il y a des choses de très très proches. Ensuite, je pense que on fait pas du télétravail avec un enfant sur les genoux. Et ça, c'est ce qui se passe pour certaines familles qui étaient quand même en très forte densité dans les métropoles. Dans les zones rurales ou semi-rurales ou dans ce qu'on appelle les campagnes urbaines, c'est possible. Mais à condition aussi d'avoir un bon accès à Internet. Et ça, ce n'est pas donné partout.
Une dernière question. Il nous reste simplement une minute. Sophie, je vous laisse répondre. Sophie Fay de l'Obs. Pour ceux qui veulent faire des investissements locatifs, il y a beaucoup de gens, beaucoup de Français qui veulent investir. Quelles sont les villes qui aujourd'hui sont les plus porteuses ou le marché est le plus intéressant?
Eh bien, on voit que les villes où la rentabilité nette est les plus intéressantes sont des villes comme Limoges, Perpignan, Saint-Étienne, Amiens, Mulhouse.
Donc plutôt des villes moyennes.
Plutôt des villes moyennes. Et surtout pas les villes côtières ou les villes comme Paris ou le centre de Lyon où là, les prix sont
trop élevés.
Sont très élevés et donc le rendement peut être moins rentable. Mais il n'y a pas de règle générale. Il faut être très attentif sur l'emplacement et la qualité du bien. C'est toujours... on voit quand même qu'on est dans un marché un peu compliqué et que les biens qui ont un défaut seront les premiers à décoter s'il y a une baisse.
Merci à tous les trois. Dossier à retrouver donc, je le redis, dans l'Obs, dans tous vos meilleurs kiosques partout en France. 19h49, on se retrouve dans quelques instants.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et il est 19h52, le club des idées d'Europe Soir se poursuit et comme chaque soir, on plonge maintenant dans les archives pour éclairer l'actu. On va parler tennis, Roland Garros, 3 minutes pour comprendre. Ça s'appelle le jour où.
On essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Et on parle effectivement de tennis avec Roland Garros avec un peu de retard, un peu beaucoup même de retard. La quinzaine de Roland Garros démarre donc ce dimanche pour 15 jours. Et on voulait profiter de ce moment pour vous faire partager avec Jean-François Pérez qui nous a rejoint, un spécialiste sport, les moments de légende de Roland Garros grâce aux archives d'Europe Soir.
Va-t-il chercher l'ace? Oui, il sert au centre, il monte au filet.
Il a gagné.
Nous sommes le dimanche 5 juin 1983. Le regretté Patrice Dominguez est au commentaire. Pour la première fois depuis Marcel Bernard en 1946, un joueur français soulève la Coupe des Mousquetaires. Ce joueur, c'est donc Yannick Noah, fils de Zachary Noah, ancien footballeur professionnel à Sedan, le premier à venir le féliciter sur le court. « Papa, on a gagné !» lâche un Yannick Noah en larmes, interrogé un petit peu plus tard sur Europe 1.
« J'avais toujours rêvé de cette victoire, maintenant c'est fait. » Il faudra repartir vers d'autres horizons parce que ça vaut le coup. Je veux dire, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus de travail. Une vie qui est complètement changée, mais ça vaut le coup. Je veux dire, quand on réussit, ça vaut vraiment le coup. Je viens de gagner Roland-Garros, tant mieux. Maintenant, je pars en vacances.
À l'époque, la France en a assez de mordre la poussière. Les perdants magnifiques cèdent la place à une génération de vainqueurs. Bernard Hinault en cyclisme, Euro 84 de foot. Yannick Noah a décomplexé le sport français. Bientôt, il gagnera la Coupe Davis comme capitaine. Un personnage immense qui vient de fêter ses 60 ans.
Regardez Chang, il est devant maître dans le court.
Voilà,
il a gagné.
Six ans plus tard, jour pour jour, un jeune Américain crée la sensation. Il s'appelle Michael Chang, 17 ans à peine. Face à lui, un monstre du jeu, Ivan Lendl, le Tchécoslovaque, numéro 1 mondial, ultra favori, tellement qu'il se détache rapidement, 2-7-0. Mais Chang s'accroche, revient à 2-7 partout. Le public n'apprécie guère la froideur robotique de Lendl. Il prend fait et cause pour le junior. Chang est épuisé, perclus de crampes. Alors il sort le sac à malice, un service à la cuillère, comme les débutants, pour faire disjoncter son adversaire. Et ça marche. Enrico Macias, en tribune, se prend la tête à deux mains. Touché, Lendl coule sur la balle de match que vous venez de vivre. Un deuxième service où Chang se poste tout près de la ligne de service. Lendl proteste en vain, double faute. Une semaine plus tard, Michael Chang remportera le seul tournoi du Grand Chelem de sa carrière. Moralité en tennis, la tête est parfois plus précieuse que les jambes.
Non. À l'instant, Karen Cheryl, à l'instant, Marie Pierce remporte les internationaux de France de Roland-Garros. Magnifique. Sur sa troisième balle de match. Elle s'impose.
C'est à ce jour la dernière victoire française à Roland-Garros, 10 juin 2000 avec Manuel Tissier sur Europe 1. Marie Pierce, qui s'est déjà inclinée 6 ans plus tôt en finale devant Arantxa Sanchez, surclasse une autre Espagnole, Conchita Martinez. Pour la franco-américaine née à Montréal, c'est un aboutissement, une sacrée revanche aussi. Elle qui a longtemps souffert des turpitudes d'un père toxique et violent. Pour expliquer sa sérénité nouvelle, elle dévoile sa foi chrétienne et porte en collier un chapelet blanc lors de ses matchs. Tout est entre les mains de Dieu. J'en ai assez de me torturer. Une prière et puis ça va. Vainqueur de Roland-Garros et de l'Open d'Australie, vainqueur également de la Fed Cup avec l'équipe de France, Mary Pierce est l'une des 5 Françaises seulement à avoir triomphé dans toute l'histoire du tournoi de la Porte d'Auteuil.
Ça y est, c'est fait. Raphaël Nadal qui s'écroule sur le sol, un 12e titre sur une faute en coup droit de Dominique Thiem.
Toujours plus incroyable, Raphaël Nadal remporte les internationaux de France pour la 12e fois de sa carrière le dimanche 9 juin 2019 en direct sur Europe 1 avec Corinne Boulou. Une victoire implacable de l'Espagnol face à l'Autrichien Dominique Thiem. Mais derrière cet hallucinant palmarès, il y a un monstre de travail et un champion hors norme, sans doute le plus grand joueur de terre battue de toute l'histoire du jeu. Nadal a déjà gagné 2 fois plus souvent à Roland-Garros que le mythique Bjorn Borg. Il sera encore une fois l'immense favori à sa propre succession, devant le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic. Nadal, Djokovic, les deux seuls à postuler au record suprême, celui de Roger Federer, vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem. Nadal en est à 19. S'il l'emporte, il égalera le Suisse et écrira une nouvelle page de la légende de Roland-Garros.
Bien, et on suivra ça évidemment pendant ces 15 jours. Europe 1 Radio partenaire de Roland-Garros. Merci Jean-François Pérez et bon week-end à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
19h57, dans un instant, le rappel de l'info. On reviendra évidemment sur cette attaque survenue aujourd'hui à Paris devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Et puis juste après, Émilie Mazoyer qui reçoit un grand chanteur de la chanson française qui, quand je le croise, m'appelle le petit gars du Loir-et-Cher. Ce chanteur, c'est Alain Souchon. Il sera avec Émilie dans quelques secondes. C'est à suivre sur Europe 1. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end. Un très bon week-end et je vous dis rendez-vous même lieu, même heure, lundi, donc à partir de 18h. Et d'ici là, on écoute et on décrypte, évidemment sur Europe 1, le monde changé. À lundi, ciao.